Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et dans un premier temps et avant toute chose, permettez-moi de remercier le Centre de la Recherche de Versailles ainsi que l'Académie internationale des sciences de son invitation. J'ai intitulé cette communication « Le Bureau des colonies et le savoir scientifique, articulation entre science et action dans la construction d'un projet atlantique 1763-1767 ». Mais peut-être aurais-je dû d'abord dire quel était ce fameux projet atlantique, puisqu'il s'agit de l'expédition de Kourou de 1763, que je vais commencer par préciser. En 1763, le duc de Choiseul voulut créer une colonie blanche et libre en Guyane française. Et pour ce faire, il recruta près de 15 000 colons, quasiment tous originaires de Rhénanie et de Palatinat, et placés sous l'égide et du chevalier de Turgot, le frère aîné de l'intendant du Limousin, également associé libre de l'Académie des sciences de Paris, mais également de Thibaut de Champvallon, créole de Martinique, directeur de l'Académie des sciences de Bordeaux, et nommé intendant. L'entreprise s'est soldée par la mort de la plupart des familles envoyées des suites d'une épidémie qui se poursuivit par un scandale d'État. Cette expédition montrait finalement, à travers l'échec tragique d'un projet colonial inspiré des Lumières, ce qu'était la prise de décision politique sous le ministère Choiseul dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit de celui de la guerre de Sept Ans. Et il s'attachait d'autre part à montrer les modes de fonctionnement administratif de la France de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ainsi que de dresser la chronique d'une irresponsabilité politique. Au-delà, le truchement de ce projet présente différents acteurs qui sont au cœur de l'administration, à savoir des botanistes, des ingénieurs hédographes, des cartographes, un savoir scientifique qui repose sur la sollicitation de bureaux et particulièrement sur le bureau des colonies. Ainsi, le duc de Choiseul s'est-il répandu très rapidement dans sa correspondance sur le choix d'hommes qu'il jugeait, je cite, « les plus vertueux et les plus intelligents ». Il y aurait donc eu ainsi, dans la volonté de créer cette colonie sans esclaves, la volonté de s'appuyer sur des acteurs scientifiques dont l'influence et l'aura restent à déterminer. C'est cette hypothèse de travail que j'entends présenter et qui pose trois grandes directions. La première, la question de la représentation d'un territoire. Qu'est-ce que l'on connaît, finalement, au XVIIIe siècle de la Guyane française? La deuxième, la question de son information et très précisément la manière dont le gouvernement, le bureau des colonies, sont informés du local par les scientifiques qui l'envoient officiellement en mission. Et enfin, la construction de l'image d'une colonie telle qu'elle apparaît au final dans l'ouvrage de Bellin, un ouvrage qui mêle à la fois une réflexion ethnographique, cartographique et économique. Notre communication étudie ainsi le déplacement entre une construction mentale et une construction scientifique, une construction scientifique et une action politique, puisqu'elle est suivie de faits. Au cœur de ce déplacement figure le Bureau des colonies qui articule, qui classe, qui commande et qui écarte certaines réflexions. Donc cette première partie que j'entends développer interroge la question de la Guyane française. Est-ce que c'est un espace rêvé pour la cour de Louis XV? Pour ouvrir mon propos, je me permettrai de citer les quelques lignes que Voltaire trace au 17e chapitre de Candide, lorsque Candide et Cambeau, justement, passent à Cayenne. Il n'était pas facile d'aller à Cayenne. Des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages. Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides. Enfin, ils découvrirent un horizon immense. Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants, couverts de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palais. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, verts, qui jetaient un écasse singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône moghol. Ce trait très contemporain de l'expédition en fait, participe d'une conception beaucoup plus ancienne. Les voyageurs qui, pendant plus d'un siècle, ont louvoyé après Colomb le long des côtes du delta de l'Orénoque à celui de l'Amazone, ont en effet suscité des convoitises et des légendes. L'évocation très classique d'un fleuve sortant de l'Éden pour arroser le jardin et le pays de l'or a forgé pour longtemps l'image d'une contrée propre à enflammer les esprits des navigateurs, pourtant essentiellement livrés alors à des activités de brigandage. Durant tout le XVIe siècle, la cité de Manoa, le pays du roi doré, a occupé l'esprit de ces aventuriers des mers, dont les mines étaient le relais au siècle suivant, suscitant parfois de nouvelles explications. C'est un élément que l'on retrouve dans la cartographie. Je vais prendre plusieurs exemples différents, en 1598, en 1667 et en 1677. 1598, je cite la Neue Carta Guyana de Jocundus Hondius, qui est réalisée après le voyage de Rayleigh. Et cette carte montre très précisément qu'il existe une Guyane de Rayleigh, tout comme il a existé un Mexico de Cortés ou un Cusco de Pizarro. Et c'est tout à fait paradoxal, puisque Rayleigh n'a pas vraiment mis les pieds en Guyane française à l'époque. On conçoit pourtant cette colonie comme une réserve, et une réserve tout à fait possible. En 1767, une autre carte est celle d'Étienne Vouillemont et qui fait figurer l'île de Cayenne très précisément entre une carte. Donc l'île de Cayenne est dans le cartouche qui est supérieur, vous la voyez, qui est tenue par une femme et par un homme. S'y ajoute la dénomination d'îlets et ces îlets, le père, la mère, l'enfant, l'enfant perdu, qui reprennent également cette mystification. Il s'y ajoute aussi une capacité tout à fait économique, puisqu'on distingue les fonctionnements, que ce soit des sucreries, des indigoteries. Et tout en bas, on rappelle toutefois la perle, entre guillemets, de ces colonies françaises, qui est le fonctionnement de Saint-Domingue. En 1677, la géographie épouse encore le rêve. Alors, cette carte que je vous présente reprend à nouveau, comme vous pouvez le constater, dans il n'y a pas le petit... petite lumière. Non, ça n'existe plus. Bon, donc vous avez Guyane, le royaume du roi doré, qui est tout à fait marqué par l'intérieur. On voit très nettement également les fleuves qui aboutissent par à des estuaires sont précisés. Merci. Alors ça fonctionne comment votre truc ? Voilà. J'ai pas l'impression. Je sais pas le faire fonctionner. Oui, voilà. Donc la Guyane ici, le royaume du roi doré, le fameux lac Parimé et toute cette bordure côtière qui est drainée, qui suppose qu'on puisse y avoir un cabotage. Le bouclier guyanais, qui est signifié également par ces petites montagnes sur l'arrière, et tous les noms des différents Indiens, des différentes tribus, qui seraient celles de Guyane. Cette carte laisse également apparaître un peuple particulier. Il s'agit des Nolacs, les Nolacs dans la littérature, qui traditionnellement portent des plaques d'or à leurs oreilles. On suppose des montagnes où il y a du cristal. Donc c'est une carte qui est bien qu'antérieure, sonne véritablement comme un écho aux lignes de Voltaire. Alors, au XVIIIe siècle, était très précisément en 1763, qu'en est-il ? Est-on toujours dans cette vision et dans cet imaginaire collectif ? Pour partie, et comme le montre par exemple le nom de Cayenne. Alors, d'où vient le nom de la ville de Cayenne ? C'est une étymologie qui est disputée. Il y a l'histoire qui raconte que le roi Sepehrou, le chef des Indiens Galibi, avait un fils du nom de Cayenne. Cayenne était fou amoureux de la princesse Bélem. Il fit appel au sorcier Montabon pour l'aider à conquérir son cœur. Et il put ainsi franchir, monter sur un taureau, une immense rivière aux eaux tumultueuses, rejoindre Bélem et finalement l'épouser. Et en récompense de sa bravoure, le roi Sepehrou décida que le village, au pied de la colline sur laquelle il vivait, s'appellerait Cayenne. C'est une légende très belle qui souffre néanmoins d'une contestation, puisque dans le langage maritime, Cayenne signifie également relâcher. Et il était plus probable que c'était le moment où on relâchait avant d'aller vers des ports plus au nord, tels que le grand centre de Paramaribo. Donc, la question qui se pose alors, c'est comment opérer finalement cette synthèse entre l'univers réel et l'univers rêvé. Et peut-être faut-il chercher cette synthèse au moment du voyage de Charles-Marie Lacondamine en 1744, dont nous avons entendu parler ce matin. Donc je vais réduire mon propos et j'indiquerai simplement que le scientifique Charles-Marie Lacondamine a réaffirmé l'unité de la Guyane et sa nature insulaire en montrant que Cayenne devenait également le nouveau centre de gravité de la Guyane. On bascule ainsi de cette position qui était intérieure, fantasmée et très riche, à une position qui est littorale, qui est française et qui est un peu plus scientifique. Ainsi, en 1763, cette colonie de la couronne, mélange connu et de merveilleux, offre un tremplin quasi parfait à de nombreuses projections. Dans l'entreprise de colonisation qu'il s'est fixée, le duc de Choiseul a découvert rapidement l'ignorance quasi absolue de cette colonie. Or, il entendait en faire une éclatante revanche des suites de la guerre de 7 ans, une revanche qui se basait sur une colonie de peuplement blanc, hors de l'esclavage et hors du régime des compagnies. Le projet est alors celui d'une colonie de cultivateurs, car selon plusieurs théories physiocrates, un cultivateur défend sa terre, ce que ne pourrait faire un esclave. Dès lors, le bureau des colonies, qui est dirigé par le premier commis à Caron, va lancer plusieurs actions. Ces actions sont à la fois des connaissances militaires et des connaissances scientifiques. Je me permets de rappeler ce qu'est très brièvement à l'époque le bureau des colonies. Et je précise qu'en 1761, les secrétariats d'État à la marine et à la guerre étaient réunis, formant un ministère puissant. La même année, une commission était établie pour les affaires coloniales. Le bureau des colonies, qui avait été créé en 1709 par Pontchartrain avec une vingtaine de commis, était alors, selon la définition de Marion, relégué au second plan. Ce serait donc un paradoxe que pour une très grande entreprise de revanche suite aux conséquences de la guerre, un des bureaux qui ne soit qu'en second plan en conçoive finalement les plans. C'est pourtant ce qui va être le cas et qui va montrer un certain nombre de décisions. Ce savoir scientifique va s'appuyer sur des hommes qui sont excessivement précis. On constate ainsi qu'en choisissant de s'appuyer sur des canaux qui vont être à la fois dansons et à la fois fusées au blé dont nous avons parlé tout à l'heure, le gouvernement ne s'appuie pas sur le savoir qu'il pourrait trouver en place. Je rappelle la communication du début de l'après-midi et notamment celle des médecins royaux et de celui qui a été nommé Jacques-François Arthur. Donc, qui sont les hommes chargés d'étudier et d'apporter au bureau des colonies cette connaissance du local? Ils sont deux et se nomment Fusée-Aublé et Adanson. Alors si je précise leur biographie, je commencerai par celle de Fusée-Aublé, 1720-1778, tout à la fois botaniste et pharmacien. Il a séjourné 9 années dans l'Île-de-France, Île-de-France qu'il a quittée à la suite d'un conflit violent avec Pierre Poivre, car il était jaloux du succès de ce dernier et il aurait détruit plusieurs plantes récoltées. Quant à Michel Adanson, né en 1727, décédé en 1806, c'est un botaniste réputé, l'un des correspondants d'Anjou Jussieu, comme ça a été précisé tout à l'heure, mais il s'affirme également comme une personnalité tout à fait singulière. Nommé en 1751 naturaliste de l'île Bourbon, il a refusé de s'y rendre en raison d'un mal de mer qu'il aurait dû affronter pour rejoindre son poste. Il est auteur en 1757 d'une histoire naturelle du Sénégal. Il est également membre de l'Académie française et de la Royal Society de Londres. C'est une personnalité extrêmement méfiant, qui a un ennemi mortel, la Compagnie des Indes, dont il fustige très régulièrement dans sa correspondance plusieurs de ses lieutenants. Le mémoire qu'Adanson remet au bureau des colonies est un mémoire très particulier, puisqu'il ne prend pas véritablement en compte les capacités de production et d'agriculture et de développement, mais il hésite sur la question d'une localisation, c'est-à-dire que cette revanche n'est pas pour lui à Cayenne, mais à Gorée. Cela n'a finalement que peu d'importance, puisque le bureau des colonies va plutôt s'appuyer sur Fusée-Aublé, dont il charge officiellement d'une mission et qu'il fait embarquer pour la Guyane française. Je me permets de citer l'ordre qui lui est remis. Donc, fusée au blé doit se borner à tout voir, à tout examiner, ce qui peut être relatif à vos connaissances sur les productions de cette nouvelle terre, en dresser de bons mémoires et rendre compte de tout ce qu'on peut faire pour un pays qui mériterait plus d'attention qu'on en a encore eu jusqu'à présent. Il s'embarque le 30 mai 1762 pour Cayenne, qu'il n'atteint que 50 jours plus tard, au terme d'une traversée particulièrement éprouvante. Il découvre la colonie, il séjourne à Cayenne, et lorsqu'il veut se déplacer ou lorsqu'il réclame des informations particulières, il s'appuie sur les locaux et particulièrement sur les pères jésuites, dont la situation est tout à fait particulière puisqu'on est au moment véritablement où les pères jésuites vont être expulsés en pleine affaire Lavalette. Donc, il étudie les rapports et notamment avec les Indiens et les habitants. Il recense effectivement plantes et animaux. Il accumule une documentation qui est précise et qui formera la source de l'histoire des plantes de la Guyane française, rangée suivant la méthode sexuelle, un épais ouvrage de 4 volumes, dont 2 volumes de planches, mais qui sera imprimé très postérieurement. Au-delà, les considérations de Fusée au blé questionnent l'identité coloniale. Je cite. Un colon aisé fera toujours un fidèle sujet. L'éloignement, au contraire, animera son zèle. Mais un colon malheureux, opprimé, traité par les commissaires, commandants, gouverneurs, comme des cerfs empoisonnés, ne fera jamais qu'un sujet inquiet et chancelant. Il ne faut pas que Sa Majesté soit dans la crainte que des colons trop opulents devinrent entreprenants. Au contraire, laissez-les vivre dans cette opulence, ils craindront de la perdre, d'être opprimés, ils défendront avec force et courage les intérêts de Sa Majesté. On se rapproche de l'idée de la question du peuplement et l'idée de la, et l'intérêt que de ce peuple à partir en Guyane française. Ce rapport n'est adressé que tardivement au Bureau des colonies et en mars 1763, donc quasiment une année après son embarquement. Ce qui est très curieux, c'est qu'il n'évoque pas dans ce rapport particulièrement sa mission, mais il prend plus précisément en compte ses relations avec les jésuites, ce qui s'explique en raison du contexte particulier, et surtout, il recommande de faire un voyage autour du monde pour sa personne afin de parfaire sa mission. Alors la réponse viendra évidemment du duc de Choiseul par l'entremise d'une lettre de monsieur de Bombarde où le ministre bottera en touche en lui indiquant que les choses sont terminées. Donc on constate à ce point de l'exposé que finalement donc, le bureau des colonies a décidé et a missionné deux hommes particuliers, qu'il commence à établir un corpus scientifique de personnes tout à fait adéquates, mais qui est un corpus soit qui se juxtapose, soit qui se chevauche, ou qui laisse apparaître quelques incohérences. Et enfin, on peut s'interroger sur les suites de cette mission, puisque Fusée au blé entendait continuer, et Adanson en est resté là. Donc, cette tentative d'expertise scientifique, cette tentative de constitution d'une documentation historique se verrait sèche s'il n'y avait un troisième intervenant, un intervenant versaillais, si je puis dire, qui est la personne de Jacques-Nicolas Bellin. Jacques-Nicolas Bellin publie en 1763 une description géographique de la Guyane qui est un premier ensemble imprimé quasiment exhaustif sur l'histoire et la connaissance géographique de cette colonie de la couronne. Ni l'année de publication ni l'auteur ne sont bien évidemment des choix fortuits. Bellin, né en 1703 et décédé en 1772, a été nommé en 1721 hydrographe du ministère de la Marine, à la suite de la création de l'Office hydrographique français et du dépôt des cartes et plans de la Marine. 20 ans plus tard, il poursuit sa carrière en tant qu'ingénieur hydrographe. Il devient membre de l'Académie de Marine de la Royal Society de Londres et participe à l'entreprise encyclopédique en rédigeant pas moins de 900 articles. En ce contexte de guerre, il est l'auteur de très nombreuses cartes de la Nouvelle-France et rien que pour l'année 1762, on en dénombre plus d'une quinzaine. En ce qui concerne l'ouvrage de la Guyane française, il sera encore plus prolixe, puisque non seulement l'ouvrage est cartographique, mais aussi il porte une vision ethnographique à travers des parures indiennes, ou la faune, la flore, bref, tout ce qui pourrait être utile au travail d'un colon à son déplacement dans cette colonie. L'ouvrage contient au final 294 pages, un format in octavo. Ce qui est très intéressant de noter, c'est quelle est la base du matériel scientifique qu'utilise Bellin. Alors, il donne plusieurs précisions. La première précision, bien évidemment, il se réfère à Guillaume de Lille, l'un des maîtres de la cartographie française. Il se réfère également aux missionnaires et particulièrement au voyage des pères Grillet et Béchamel. Il se réfère également à des imprimés. Alors, quels sont ces imprimés? Le premier est celui d'Antoine Biais et qui figure comme le plus ancien. Il y a également la relation de Froger, qui est donc celle d'un ingénieur qui a été embarqué sur le Faucon anglais et qui est l'auteur d'une première série de cartes de Cayenne à la fin du XVIIe siècle. Et il y a également l'ouvrage de Lefèvre de la Barre qui complète cet ensemble. Cette dernière référence, là non plus, n'est pas anodine sous les lignes de Bellin, puisqu'elle porte à la fois sur l'une des premières compagnies à avoir tenté de s'implanter en Guyane, la compagnie de la France équinoxiale, et sur Joseph-Antoine Lefèvre de la Barre, qui est un ancien conseiller au Parlement de Paris, un ancien intendant de Paris durant la Fronde, lieutenant général de la Guyane, puis gouverneur de la Nouvelle-France. La Barre a énuméré dans son ouvrage les très nombreux écueils qu'il a rencontrés, et notamment les maladies. Il a qualifié la Guyane d'alors de reste languissant et a dépeint de très nombreuses misères. La conclusion de son ouvrage était quasi décourageante puisqu'il indiquait, je cite, « La terre nouvellement découverte n'est pas bonne pour les cannes, ni pour le tabac, coton, indigo et rocou, et qu'il faut que le labour et le soleil les premièrement préparés, il est préférable de songer à la subsistance que de penser au profit. » L'objet donc du livre de Bellin est d'aller contre cette pensée-là et contre cette conclusion qui ont été de dire que finalement en Guyane on ne pouvait pas faire pousser grand-chose. Il affronte la conception qu'on a à l'époque de ce qu'on appelle la zone torride. La description de Bellin, pour aller contre ce propos, est alors divisée en trois grandes parties. Une première historique, une seconde qui porte sur tout le commerce possible, et notamment sur une comparaison avec ce que les Anglais peuvent faire dans ces plaines de Guyane, et la troisième qui contient des remarques sur la navigation. 21 cartes complètent ce propos, ainsi que plusieurs planches, comme on les voit, donc hommes et femmes de la nation caraïbe, hommes et femmes indiens de Guyane, hommes et femmes de la Guyane française avec leurs armes, atours et parures des indiens de Guyane, c'est celle que vous voyez en ce moment en négatif, les plantes, les indigoteries. L'ensemble cartographié est également un ensemble tout à fait majeur. Pourquoi ? Puisque la langue côtière donc, est abordée du sud au nord, on voit que le cabotage est tout à fait possible entre Cayenne et Paramaribo, et dans le cartouche à droite est donc dessinée l'île de Cayenne, qui est donc l'élément principal de cette colonie. L'axe de circulation côté est présenté, avec également ses difficultés premières, qui sont les bancs de sable, et on a véritablement une possibilité de se déplacer dans la colonie. Il est aussi intéressant de noter dans l'ouvrage que les colonies voisines sont représentées, et notamment la ville de Paramaribo. La description que Bellin donne de l'Amérique est tout à fait fidèle à cette carte, puisque au contraire de ce qu'en écrivait Lefèvre de la Barre, on voit qu'ici, il nous indique que pas du tout, il n'y a absolument aucun mal de Siam. Entendre la fièvre jaune, qui était si dangereux à la Martinique et à Saint-Domingue, qu'il est parfaitement possible d'accoster et que le sol peut pourvoir aussi bien à la culture qu'à l'édification, qu'il s'agit d'un sable noir, facile à labourer, qui a 2 pieds de profondeur, au-dessus desquels on trouve une terre rouge propre à batture. Il ne manquerait ainsi rien à la Guyane, pas même une saison des pluies, que Belin qualifie de pluie d'acajou. Au final, une véritable profusion règne. Les superlatifs sont absolus, concernent un canton infiniment plus beau et infiniment plus fin que celui des îles, avec un point d'orgue dans ce discours. Je cite « Il y a de la vigne dans l'île de Cayenne dont on peut faire et dont on a fait même du vin excellent. Il est fort couvert, il a beaucoup de feu, sans être rude. Au contraire, il est un peu doux. Jusqu'à présent, on a fait peu de vin à Cayenne parce que les grappes ne mûrissent pas entièrement tout à la fois. D'ailleurs, les habitants trouvent plus de profit à cultiver la vigne qu'à cultiver le sucre. » Alors, ces quelques lignes posent une question, c'est-à-dire où Belin a-t-il été chercher ces renseignements qui ne peuvent être ni dans les dossiers de Delisle et encore moins dans ceux de Bouache. Probablement était-ce dû à la présence au bureau des colonies d'un colon de Guyane, Brûle-Tout de Préfontaine, qui était en disgrâce justement de sa colonie et qui également depuis plusieurs années tentait de proposer un projet de peuplement. Quoi qu'il en soit, on constate que les différents articles de ce manuel détaillent avec minutie la géographie et la botanique, signalent très précisément quel colon s'occupe de quelle culture et établissent au gré des pages une typologie entre les grands propriétaires et les petits habitants. Ainsi, à l'article qui concerne le Roucou, Belin note précisément « Les petits habitants qui ne sont pas assez riches pour établir une sucrerie font du Roucou, c'est en hiver qu'ils le font, la sécheresse de l'été qui est outrée fait périr beaucoup de ces arbrisseaux ou du moins elle sèche si fort les fruits qu'ils ne rendent presque rien. » Là aussi, la critique du texte pose un problème puisque Belin fait référence à deux saisons importantes en termes d'agriculture que sont l'hiver et l'été et qui n'existent pas réellement en Guyane, où on pose plutôt la question d'une saison sèche et une saison des pluies. Enfin, en ce qui concerne le domaine, je dirais, ethnographique, apparaît la question de ces Indiens. Les Indiens, ce sont des sauvages qui n'ont finalement en partage que l'ignorance, l'ingratitude, la paresse, la crainte et la gloutonnerie. Néanmoins, ces mots s'effacent pour laisser place à une entente cordiale avec des colons et éloigner surtout les craintes de guerre et des massacres. C'est assez curieux, on pourrait imaginer une référence aux révoltes des Indiens Caraïbes, mais il faut aussi se souvenir que la question précise des révoltes est posée dans cette région des Guyanes par le marronnage et notamment par de très nombreuses révoltes des esclaves au Suriname. Au final, et comme en apothéose, la description de Belin pose alors celle du colon et des habitants. Et il indique « Les habitants sont fort affables, libéraux et reçoivent les étrangers avec tous les agréments possibles. Leur jargon tient beaucoup du nègre pour les enfants. On peut cependant dire que le langage créole est moins ridicule que dans les îles. Les créoles aussi sont mieux faites qu'ailleurs. Elles n'ont point le tajou au Népal, comme celle de la Martinique et de Saint-Domingue. » Alors, on pourrait sourire à cette description si l'on ne précisait le contexte qui veut de définir ce qu'est un Américain pour la conception métropolitaine. Et le qualificatif, l'épithète d'Américain, est un qualificatif excessivement péjoratif. Or ici, terminé en le comparant par une supériorité aux deux perles des colonies que sont la Martinique et Saint-Domingue, est excessivement précis. Ainsi, Belin opère véritablement un renversement cartographique par la connaissance d'un territoire, un renversement en termes de qualification et de typologie des différents habitants, et un renversement en termes des possibilités agraires, qu'elles soient supposées ou imaginaires, dans son esprit. Dans sa préface, Belin entendait remédier à l'absence d'indication pour la navigation le long des côtes guyanaises. Et c'est ainsi quasiment qu'il conclut en signalant les différentes capacités de mouillage. Car l'ouvrage, paru après la guerre de 7 ans, pose avant tout la question d'une flotte à entretenir et pour soutenir les colonies nord-américaines. En conclusion, Numa Brau a qualifié l'expédition de Kourou ainsi. Peu d'entreprises auront été préparées aussi soigneusement et pour la première fois peut-être, un modèle d'appréhension globale de la réalité lointaine par la mobilisation de savants touchant à tous les domaines du savoir se fait jour au sein de l'administration française. Ce propos, bien évidemment, est à discuter. D'une part, car l'on constate que dans la construction mentale de ce territoire, la réflexion est éclatée. D'autre part, parce qu'elle provient quasi unanimement du Muro de Coligny, qui organise selon des angles tout à fait précis. D'autres, enfin, il faut signaler que ce mode d'appréhension est reproduit à un niveau supérieur, celui qui consiste précisément dans le choix des cadres que sont Turgot et Champvallon. Là aussi, on constate que, par la chronologie, le projet fut construit a posteriori au milieu d'influences particulières. Il demeure ainsi un constat, celui du contexte d'une fin de guerre qui permet à de nombreux scientifiques de nourrir, de proposer, de porter de projets, même si la volonté gouvernementale demeure première. Je vous remercie.